libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un webchat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur chat.libre-a-toi.org ou plus simplement sur le site de la radio, donc causecommune.fm, et vous cliquez sur chat. Et vous pourrez ainsi nous retrouver sur le salon dédié à l'émission et éventuellement poser des questions. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, donc l'émission pour comprendre et agir avec l'April. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Je vous rappelle le site web de l'April, april.org, et vous y retrouvez déjà une page consacrée à cette émission, avec un certain nombre de références que l'on va citer. La page sera mise à jour après l'émission avec les références que l'on citera pendant l'émission. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors on va passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer par une intervention donc de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, sur ses démarches de sensibilisation, notamment pour la diffusion de ressources libres. Donc normalement, Jean-Christophe est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on se retrouve d'ici une petite minute. Ensuite, après l'intervention de Jean-Christophe, donc d'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui est attendu, je sais, par beaucoup de monde, qui portera sur les conditions d'accès aux documents administratifs, avec donc Marc Dandelot, président donc de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Bonjour Monsieur Dandelot.
Bonjour.
Avec nous également Tanguy Morlier, membre du collectif Regards Citoyens, dont le but est de proposer un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions à partir des informations publiques. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
Et tout à l'heure, nous rejoindra Xavier Berne, journaliste au site d'actualité et d'enquête Next Impact. Et normalement, aux alentours de 17h15, ma collègue Isabelle Avani, qui s'occupe notamment de la vie associative et qui est responsable projet à l'April, nous fera un petit point sur des actions de sensibilisation. Et je salue aujourd'hui à la régie donc Charlotte. Et derrière Charlotte, il y a également Étienne Gonu et Patrick Creusot qui assistent à une sorte de formation pour la régie. Donc merci Charlotte. Je précise que je dis que Charlotte parce qu'elle préfère qu'on l'appelle comme ça sans son nom de famille. Voilà, ce n'est pas une discrimination du tout. Alors, nous allons commencer par une intervention de Jean-Christophe Becquet, président de l'April, qui va donc initier une chronique dont le titre est « Pépites libres ». Donc, rebonjour Jean-Christophe.
Bonjour. La chronique « Pépites libres », je me propose de vous présenter de temps en temps dans Libre à vous une ressource. Alors, ça peut être une œuvre d'art, une ressource pédagogique, une base de données. Avec comme point commun le fait qu'elle soit sous licence libre. Et parfois, j'ai joué un rôle dans le fait qu'elle soit sous licence libre, et donc lorsque c'est le cas, eh bien, je vous raconterai comment et pourquoi j'ai entrepris cette démarche.
Alors donc, pour cette première chronique sur Pépites libres, de quelles ressources souhaites-tu nous parler ?
Alors, première chronique Pépites libres, je voulais parler de la conférence « Un faible degré d'originalité ». Un faible degré d'originalité, c'est une causerie ludique qui rappelle les conférences gesticulées. J'expliquerai tout à l'heure ce que sont les conférences gesticulées.
Oui, s'il te plaît.
Et donc, pendant 1h30, Antoine Defort, de l'Amicale de production, nous emmène en randonnée dans les montagnes embrunées du droit d'auteur. Un faible degré d'originalité, c'est une promenade culturelle qui nous conduit des parapluies de Cherbourg au boléro de Ravel, en passant par un dessin animé libre de Nina Palais. Et donc, avec Antoine Defort, on parcourt l'histoire du droit d'auteur, notamment une belle immersion dans l'atmosphère feutrée des clubs londoniens au début du XVIIIe siècle, pour découvrir l'histoire du droit d'auteur.
Alors, qui est Antoine Defort ?
Mais laissez-moi citer Antoine Defort. Je propose qu'on fasse un petit peu de mécanique, parce que là, je vous ai démonté un droit d'auteur, vous voyez. Donc ça, ce sont tous les éléments, tous les rouages qui composent un droit d'auteur. Je vous propose que l'on s'amuse à remonter le tout pour voir comment ça s'articule, et qu'on en commence peut-être par l'élément de base du droit d'auteur, on pourrait dire le châssis ou le socle, qui n'est pas, comme on pourrait penser, le droit d'auteur, mais bel et bien l'œuvre de l'esprit. Et donc, c'est avec un assemblage de cartons que le conférencier nous explique les subtilités du droit moral et du droit patrimonial, les deux briques du droit d'auteur.
Donc là, tu viens de nous citer un extrait de cette conférence. Est-ce que tu peux nous dire qui est Antoine Defort ?
Donc Antoine Defort est un artiste, comédien, conférencier de l'Amicale de production. Et j'ai découvert sa conférence en cherchant des ressources pour une formation sur le droit d'auteur et les licences libres. Et j'ai trouvé une vidéo disponible en ligne de sa conférence, mais la vidéo n'était pas sous licence libre. En fait, elle était sous une licence Creative Commons, mais avec une restriction sur les utilisations commerciales, une licence Creative Commons NC, ce qui m'interdisait de l'utiliser pour une formation dans laquelle j'étais rémunéré pour l'intervention. Donc j'ai contacté l'auteur pour lui proposer d'adopter une licence libre pour la vidéo de sa conférence, ce qui après quelques échanges de mails, il a accepté. Et donc aujourd'hui, on a disponible en ligne la vidéo de cette conférence sous licence libre, que tout un chacun peut visionner et utiliser pour s'initier au fonctionnement du droit d'auteur.
Alors, quels arguments tu as employés pour convaincre ? Parce que si j'ai bien compris, en fait, Antoine Defort avait choisi une licence Creative Commons, donc NC pour non-commercial, donc qui interdisait de la réutilisation commerciale, sauf à demander à chaque cas l'autorisation de l'auteur. Donc, ça permet de préciser aussi que dans l'ensemble des licences Creative Commons, certaines offrent plus ou moins de liberté ou de restriction. Donc, comment tu as convaincu finalement Antoine Defort de passer de cette licence à une licence qui permet la réutilisation commerciale ?
Alors, le principal argument, c'était le fait que d'avoir mis en ligne et en libre accès la vidéo de la conférence, ça témoignait quand même de la volonté de l'avoir diffusée le plus largement possible. Donc je lui ai expliqué le cas précis de ma formation dans laquelle j'avais pu citer sa conférence en ressource, mais pas en projeter un extrait parce que la clause non commerciale de la licence me l'interdisait. Et puis il a convenu effectivement que la principale valeur économique de son travail artistique, c'était le travail scénique, le fait de jouer son spectacle sur scène, et que le fait d'adopter pour une licence libre augmenterait la diffusion et la visibilité de son travail. Et donc, après quelques échanges, il est passé donc d'une licence Creative Commons by NC, non commerciale, à une Creative Commons by SA, share alike, avec donc une clause copyleft qui permet l'utilisation, la copie, la diffusion libre de la licence, de la vidéo, à condition de partager sous licence libre à son tour les éventuelles versions dérivées ou modifiées de la vidéo.
Oui, en fait, ce qu'on appelle le copyleft, c'est le partage dans les conditions identiques. C'est-à-dire qu'en fait, la ressource est disponible sur cette licence qui permet une réutilisation, un remix, des modifications, y compris pour des usages commerciaux, donc comme tu l'expliques dans le cadre d'une formation, mais à condition que le travail dérivé soit également sous les termes de la même licence. Donc pour les personnes qui sont un peu plus connaisseuses du logiciel libre, ça se rapproche des licences GNU-GPL, General Public License, de la Fondation pour le logiciel libre. Donc, c'est de partage dans les mêmes conditions. Je reviens à une petite question. Tout à l'heure, tu as parlé de conférence gesticulée pour cette conférence d'Antoine Defort. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est une conférence gesticulée ?
Alors oui, effectivement, la conférence gesticulée, alors l'initiateur des conférences gesticulées dit de manière un petit peu familiale qu'une conférence gesticulée, c'est une conférence qui n'est pas chiante. En fait, la conférence gesticulée, c'est une prestation scénique qui mélange ce qu'on appelle des savoirs trois, c'est les savoirs académiques, universitaires, ce qu'on apprend à l'école et dans les livres. Et puis, des savoirs chauds. Les savoirs chauds, c'est ce qu'on apprend dans la vie quotidienne à travers ses expériences de vie. Et donc, le conférencier gesticulé nous amène un sujet. C'est souvent un sujet de société ou un sujet avec des enjeux politiques. En faisant à la fois des références à son vécu par rapport à son sujet et en apportant également des éléments théoriques de la littérature pour donner des éclairages et prendre du recul sur le sujet.
D'accord. Est-ce que tu as des exemples, parce que ça dure 1h30, est-ce que tu as des exemples ou des passages marquants dans cette conférence qui ont été particulièrement intéressants par rapport à la démarche de l'auteur ?
Alors oui, tout à fait. J'aime beaucoup alors l'introduction de la conférence où en fait le conférencier joue un extrait théâtralisé du film Les Parapluies de Cherbourg, et où il explique en fait que la naissance de cette conférence, c'est qu'il était en train de monter une reprise théâtrale des Parapluies de Cherbourg, et que lorsque le spectacle était quasiment prêt et qu'ils ont eu la réponse des ayants droit pour cette adaptation, et ben la réponse était négative et que donc ça a fait avorter le projet. Et il raconte comment c'est cet incident en fait qui a déclenché l'envie pour lui de faire ce spectacle sur le droit d'auteur.
Ça rappelle un petit peu l'anecdote.
Et un autre passage marquant de la conférence, c'est lorsqu'il raconte l'histoire du Boléro de Ravel, et plus particulièrement les héritiers du Boléro de Ravel. Puisque une des particularités de l'œuvre du Boléro de Ravel, c'est que c'est une œuvre parmi les œuvres musicales les plus jouées au monde, et donc dont les droits d'auteur se comptent en millions d'euros. Et en fait, en se penchant sur l'histoire des ayants droit de Ravel, on prend conscience que ces droits d'auteur, en fait, ne sont plus dévolus ni à l'auteur qui est mort, ni à ses enfants. Ravel, Maurice Ravel n'avait pas d'enfants, mais en fait à des personnes qui héritent des droits d'auteur pour des raisons juridiques, mais qui n'ont plus aucun lien avec l'auteur. Et donc la motivation initiale qui était pour le droit d'auteur d'encourager la création en rémunérant les auteurs, on voit bien qu'ici, elle est complètement dévoyée. Et c'est ce que montre Antoine Defort avec une petite séquence dans laquelle il met en scène les différents personnages et la manière dont se transmettent petit à petit les droits du Boléro de Ravel jusqu'à n'avoir en fait plus aucun lien avec l'auteur initial.
Bah écoute, ça me paraît très clair, on va bientôt finir. Avant de donner les références, est-ce qu'il est encore possible d'assister en direct à cette conférence gesticulée donc, d'Antoine Defort ?
Alors effectivement, il y a des dates annoncées sur le site de l'Amicale de production. Les deux prochaines dates annoncées sont le 28 mars 2019 à la Maison de la Culture d'Amiens, dans la Somme, et pour suivre le 22 mai 2019 au POC, POC, à Alfortville, dans le 94. Voilà, donc c'est un spectacle qui continue à être joué, et j'encourage pour ma part les responsables de lieux culturels, de médiathèques, à contacter l'Amicale de production pour inviter Antoine Defort à jouer sa conférence « Un faible degré d'originalité ».
Alors, le site de l'Amicale de production, c'est amicaledeproduction, donc toutattaché.com. Donc, vous avez les dates des conférences d'Antoine Defort. Vous avez aussi les coordonnées pour l'inviter. Donc, les références sont aussi sur le site de l'April. Écoute, Jean-Christophe, je te remercie pour cette première chronique donc appelée Pépite libre. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?
Oui, juste en conclusion, je voulais dire qu'aujourd'hui, le 15 mars, c'est les 18 ans de Wikipédia. Wikipédia est né le 15 mars 2001. Et donc, en conclusion de ma chronique, je voulais dire bon anniversaire à Wikipédia.
Eh bien, effectivement, nous souhaitons un bon anniversaire à Wikipédia et à toutes les personnes qui contribuent à cette encyclopédie en ligne libre. Merci Jean-Christophe. On va se retrouver le mois prochain pour ta prochaine chronique Pépite libre. Et donc, nous allons passer une pause musicale avant le prochain sujet. Donc, le morceau s'appelle La Rencontre. L'artiste s'appelle Emma. Et on se retrouve juste après. Vous êtes de retour dans l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Alors je vais juste m'adresser à la régie, apparemment Xavier Bern nous dit que ça sonne occupé quand il essaye d'appeler. Donc nous sommes le 15 janvier 2019, il est 15h45, donc vous êtes avec l'émission pour comprendre et agir avec l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous venons donc d'écouter la rencontre par Emma et les références sont évidemment sur le site de l'APRIL, april.org. Nous allons donc passer maintenant à notre sujet principal. Avec nos invités. Donc déjà, on va accueillir Xavier Bern qui nous a rejoint par téléphone. Donc Xavier Bern est journaliste au site d'enquête et d'actualité Next Impact. Bonjour Xavier.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors je rappelle qu'également présent en studio avec nous, Marc Dandelot, président donc, de la commission d'accès aux documents administratifs, Tanguy Morlier, membre du collectif Regards Citoyens, et en régie, c'est toujours Charlotte qui gère ça. Donc, notre sujet va porter sur les conditions d'accès aux documents administratifs, le rôle des différents acteurs, dans ce qu'il est convenu pour certains d'appeler ça l'open data par défaut. Nous allons revenir aussi sur certains avis de la CADA qui ont fait beaucoup parler. Et on va parler notamment des difficultés. Donc, on va commencer par une introduction sur le droit d'accès aux documents administratifs, parce que peut-être que les personnes qui écoutent se disent que ça ne nous concerne absolument pas au quotidien. Donc, on va commencer par Xavier Bern, donc de Next Impact. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite introduction sur le droit d'accès aux documents administratifs ?
Oui, bien sûr. Donc le droit d'accès aux documents administratifs, c'est en fait quelque chose qui est assez ancien puisqu'il se fonde sur ce qu'on appelle la loi CADA qui a fêté ses 40 ans l'année dernière. En fait, globalement, l'idée, c'est de dire que tout citoyen a le droit d'accéder à des documents qui sont considérés comme publics parce qu'ils ont été détenus ou produits par des administrations. Des administrations au sens large, ça peut être un ministère, ça peut être votre mairie, ça peut être une école. Donc très concrètement, vous pouvez en tant que citoyen aller demander aux administrations à avoir accès à un rapport, avoir droit par exemple à votre dossier médical. Vous pouvez vraiment demander énormément de choses, des statistiques, ça peut être également aussi, on a beaucoup parlé ces derniers temps de code source pour les logiciels qui sont développés par l'administration. On a parlé par exemple du code source du logiciel de calcul de l'impôt sur le revenu ou celui de la taxe d'habitation. Je sais que Bercy a prévu d'ouvrir prochainement le code source du logiciel de calcul de la taxe foncière, etc. Voilà, c'est ça qu'on appelle le droit d'accès aux documents administratifs.
Je récupère le micro. Tanguy Morlier de Regards Citoyens, est-ce que tu veux compléter ?
Oui, ce droit est un droit fondamental dans notre démocratie et il est relativement vieux puisqu'il date de 78. Et effectivement, tous les citoyens sont... La règle par défaut, c'est que l'administration est transparente, son activité doit pouvoir être audité par les citoyens. Ce droit offre la possibilité à tout citoyen de demander aux administrations l'accès à des documents, des données ou des logiciels à travers un mécanisme qui a été, à mon sens, assez ingénieux. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer directement dans une phase contentieuse en attaquant l'administration qui pouvait refuser d'accéder aux documents, de passer par un médiateur, de passer par la commission d'accès aux documents administratifs qui était conçue comme une médiation entre les citoyens et une administration qui, faute de temps, faute de connaissances ou faute d'envie, ne communiquait pas les documents qu'elle possédait.
Donc ce qui est important de retenir là, c'est, on va revenir sur la procédure justement avec Marc Dandelot, président de la CADA, c'est qu'en fait le droit d'accès aux documents administratifs concerne tout le monde, ne serait-ce que pour comprendre le fonctionnement de sa collectivité, sa mairie, accéder à des documents qui nous concernent au quotidien. Donc ça ne concerne pas que les journalistes ou les activistes, ça concerne toute personne qui est effectivement intéressée par, on va dire, la vie de sa collectivité ou à titre simplement individuel.
Absolument, il y a même deux droits. Il y a un droit d'accès à l'ensemble des documents dans lequel il n'y a pas de mention de personne, il n'y a pas mention de secret particulier parce que, évidemment, les organisations publiques, notamment de défense, ont le droit à un certain secret. Et il y a un deuxième droit qui offre la possibilité aux citoyens, lorsqu'ils sont concernés par une décision, d'accéder aux documents qui les concernent directement. Ces documents ne sont évidemment pas accessibles aux autres citoyens, sinon ce serait une atteinte à leur vie privée.
Tout à fait. Alors, Marc Dandelot, vous êtes président donc, de la fameuse commission d'accès aux documents administratifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la commission et puis la procédure qu'une personne doit suivre si elle souhaite accéder à un document administratif ?
Bonjour Xavier, d'abord, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer quand il est venu à l'antenne. Je peux vous répondre. Je voudrais juste faire un petit commentaire préalable sur ce qui vient d'être très bien présenté sur les documents administratifs pour que les auditeurs comprennent bien. Deux choses et peut-être une illustration. D'abord, le fait que dès l'origine, il a bien été spécifié que ce qui a le caractère de document administratif, tout document qui soit produit ou détenu par l'administration dans sa mission. C'est-à-dire qu'un document administratif pour faire l'objet du droit d'accès n'est pas nécessairement un document que l'administration a élaboré elle-même. Mais je vous donne juste un exemple. Un document de caractère tout à fait privé qui se trouve être dans un dossier de l'administration pour l'accomplissement d'une procédure va de ce fait devenir un document administratif. Et le droit d'accès s'applique aussi à ce type de document. Juste un exemple pour comprendre, par exemple un plan d'architecte dans un dossier de permis de construire, c'est un document privé, il devient document administratif lorsqu'il est transmis à la mairie pour un permis de construire.
Donc c'est tous les documents détenus par l'administration.
Tous les documents ou détenus et ou produits par elle, voilà. Bien sûr. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'elle doit être bien comprise, c'est que c'est quelle que soit la nature ou le support, et je vais vous donner quelques exemples. On a souvent, au départ, raisonné, compris les documents administratifs comme un rapport ou une lettre de l'administration, mais ça peut être une photographie, ça peut être un courriel. Les courriels que j'ai envoyés ce matin à ma secrétaire générale qui est à côté de moi, ce sont des documents administratifs qui sont communicables sous réserve de ne pas, évidemment, être... contenir des secrets protégés. Et ce sont des choses que même les administrations elles-mêmes n'ont pas encore tout à fait conscience. Mais autre exemple, le journal télévisé que vous pouvez regarder sur une chaîne publique, à partir du moment où on considère que fait partie de la mission de service public les chaînes publiques, eh bien le journal télévisé, les images du journal télévisé revêtiront la qualité de document administratif. Donc c'est une conception extrêmement large et qui je dirais, cette dimension est très utile à la transparence de l'action administrative. Voilà le point que je voulais souligner.
D'accord. Alors, on a bien compris que c'est très très large, mais d'un point de vue concret, on se met à la place de quelqu'un qui écoute, qui souhaite accéder à un document administratif, alors pas forcément vos échanges avec votre secrétaire général, évidemment, mais un document d'une collectivité, comment doit-elle procéder ?
Alors, la première chose à faire, c'est qu'elle doit le demander.
À qui ?
Alors, elle doit le demander à l'autorité administrative, en principe, qui est celle qui est redevable de l'obligation, mais si elle se trompe, c'est-à-dire si elle s'adresse à une autorité administrative parce qu'elle ne connaît pas bien, eh bien, l'autorité administrative à laquelle elle s'adresse va être obligée de la transmettre à qui de droit ?
Bon, supposons qu'elle s'adresse à la bonne collectivité.
Et si elle obtient satisfaction, la messe est dite. Si elle n'obtient pas satisfaction et qu'elle veut contester, elle s'adresse à la CADA par une procédure extrêmement simple qui est de saisir, moyennant une lettre ou un courriel. Maintenant, ça se passe sous le plan électronique. Nous avons mis en place une application qui est un formulaire type, mais qui n'est même pas obligatoire, mais qui est beaucoup recommandé. Et dès lors, parce qu'on ne peut pas saisir le juge directement d'un refus de communication d'un document.
Aujourd'hui, on ne va pas parler du juge. Pour l'instant, on s'arrêtera
donc
à la CADA.
Si elle veut la réponse à votre question, c'est que la procédure, si l'administration n'a pas, dans un premier temps, donné satisfaction à la personne, si la personne veut continuer, elle s'adresse à la CADA.
Alors donc, le processus, et je laisserai évidemment Tanguy Morlier et Xavier Berne, compliqué.
Je peux permettre de préciser, c'est
oui,
important aussi, c'est
Xavier
que
Berne.
Les administrations ont un mois pour répondre. Au bout d'un mois, s'il n'y a pas eu de réponse, on considère que c'est un refus tacite. Et donc, c'est à partir de ce délai d'un mois qu'on peut saisir la CADA. Voilà, je pense que c'est important aussi de le préciser.
Tout à fait. C'est ce que j'allais préciser, que la personne, donc on prend l'exemple d'une mairie ou autre, sollicite un document administratif à la mairie. La mairie, lui, répond négativement avec un certain nombre d'arguments, peu importe, et on verra tout à l'heure dans certains avis. À ce moment-là, effectivement, la personne peut saisir la CADA si elle veut contester la décision. Mais également, si la collectivité, donc la mairie, ne répond pas dans un mois, on a affaire à un accord, un refus tacite. Et à ce moment-là, effectivement, la personne peut saisir la CADA, comme vous l'avez dit, soit par lettre, soit aujourd'hui par courriel. Est-ce que la CADA a un délai obligatoire de traitement de l'avis ?
Oui, le délai légal est d'un mois.
Un mois, d'accord. Est-ce que Tanguy, tu veux compléter quelque chose déjà tout de suite sur la partie procédurale simplement ?
Non, outre le fait que ça peut paraître extrêmement intimidant pour un citoyen qui s'adresse à une administration d'obtenir son droit à la transparence, et que ce mécanisme de la CADA est un mécanisme extrêmement simple. Je dois dire que je n'ai jamais utilisé le formulaire du site de la CADA, et je crois que la prochaine fois, il faudra que je le fasse, mais qu'un simple email s'adressant, adressé à cada@cada.fr, si mes souvenirs sont bons, permet de voir son dossier instruit.
Oui, tout à fait. Nous-mêmes, à l'April, effectivement, on n'a jamais utilisé le formulaire. Donc, c'est d'une simplicité, entre guillemets, sur la procédure tout à fait claire. Quels sont les moyens d'évoluer la CADA ? Parce que la CADA, donc, ça a été créé en 1978 par la loi Informatique et Liberté. Aujourd'hui, on est en 2019. Le nombre de demandes... Oui, Xavier ?
Par la loi CADA, pas par la loi Informatique et Liberté.
Ah oui, par la loi CADA, excuse-moi. c'est pour ça que je suis entouré d'experts pour me corriger.
C'était la même année, à ta décharge, c'était la même année.
Exactement, en 78, il s'est passé plein de choses. J'ai même oublié ce que je voulais dire. Les moyens, oui. Donc, le nombre de demandes, je suppose, a considérablement augmenté. Donc, aujourd'hui, pour savoir quels sont les moyens de la CADA en termes de ressources humaines, par exemple, pour traiter les demandes, en termes financiers, combien de personnes vous avez pour traiter toutes ces demandes ? Et combien de demandes vous recevez par an ?
Alors, nous recevons par an un peu plus de 7000 demandes. C'est un niveau qui s'est confirmé au cours des dernières années. Il était... moitié moins élevé il y a une demi-douzaine d'années. Et nous restons une petite institution. Nous sommes une des plus petites ce qu'on appelle autorité administrative indépendante. Il y a un secrétariat général qui comporte une quinzaine de personnes et un groupe de rapporteurs qui sont pour l'essentiel, soit des magistrats administratifs, soit... Des fonctionnaires spécialisés, par exemple, dans les archives ou dans des questions administratives pointues, qui sont chargés d'examiner les dossiers et de préparer des rapports. Et donc, c'est vrai que nos moyens sont extrêmement tendus pour faire face à ce qu'est aujourd'hui la sollicitation de la CADA.
Et est-ce que ce nombre de personnes, et après je passe la parole à Tanguy Morlier qui veut réagir, est constant depuis quelques années ? Est-ce que ça a évolué positivement ?
Il est largement constant, il a très légèrement évolué, mais il n'a pas évolué dans la proportion requise pour que nous puissions faire notre mission de façon aussi rapide que le prévoit la loi.
Tanguy Morlier ?
Peut-être que, si je peux me permettre, vous avez oublié un acteur aussi assez important, c'est les membres de la commission dont vous faites partie.
Je n'ai pas encore répondu à cet aspect de la question. Ah. Effectivement, pour présenter la CADA, on présentait les procédures qui vont conduire au traitement de la demande. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CADA, en tant qu'autorité indépendante, est une autorité collégiale qui comprend 11 membres qui... sont de profils divers. Il y a des hauts magistrats, des personnalités qualifiées à différents titres, par exemple au titre des archives, des personnalités qualifiées au titre de la diffusion publique. Il y a des professeurs d'université, il y en a deux, actuellement un professeur de droit public et un professeur d'histoire. Comme c'est la tradition française aussi dans ce type de collège, des élus, c'est-à-dire un représentant d'un élu local, des élus locaux, et un sénateur et un député. Au total, donc, 11 membres.
Et donc, c'est cette commission qui prend la plupart des avis, et certains avis sont pris par délégation, je ne sais pas si c'est le bon terme, par le président dans certains
cas. C'est depuis une réforme récente que nous avons introduite, comme nous avions constaté normalement. Tous les avis sont soumis au collège, qui se prononce collégialement. Mais comme il y a un nombre important d'avis qui sont en réalité la reprise d'une doctrine bien établie de l'ACADA et qui ne présente pas de nécessité d'un débat collégial dans l'institution, il est prévu que le collège a délégué à son président la possibilité de prendre sous sa seule signature ses avis très simples. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, des ordonnances du président.
On abordera au moins un de ces avis-là, vu qu'il y en a un qui nous concerne et qui concerne Next Impact. Est-ce que Xavier Bern ou Tanguy Morlier voulaient ajouter quelque chose à cette partie-là ou poser une question éventuellement aussi Xavier ? Et comme tu es au téléphone, je te donne peut-être la parole.
Oui, non, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment sont prises les décisions en séance comment se passent un petit peu les discussions entre membres du collège de l'ACADA ?
Oui. Je vais, alors voilà, voilà aussi concrètement que possible comment ça se présente. D'abord, lorsque le collège se réunit, nous avons la possibilité de recourir à deux types de procédures. Soit on a une délibération qui est, je dirais, classique, soit si nous avons une nécessité particulière, nous pouvons inviter des administrations ou des représentants, même quelquefois des personnes concernées, à participer à un dialogue avec la commission au début. Nous n'en abusons pas parce que ça fait aussi durer les débats, mais ça, c'est une première option. La deuxième chose, c'est que pour l'essentiel, lorsque une affaire a été inscrite à l'ordre du jour du collège, le rapporteur général, qui est une institution très, très originale et importante de l'ACADA, qui est le leader du groupe des rapporteurs. Les rapporteurs qui ont préparé les dossiers ne sont pas physiquement présents lors d'une réunion de l'ACADA parce qu'ils sont souvent en province et que ça serait compliqué. En revanche, il y a un rapporteur général qui vient faire un rapport indépendant, qui expose l'affaire au collège et qui, sur la base duquel la discussion du collège peut se fonder. Et ensuite, comme toute institution collégiale, comme le ferait même une quasi-juridiction, il y a un débat au sein du collège, et c'est la tâche du président, ensuite, lorsque le débat est terminé, d'apprécier s'il y a un consensus sur une solution ou s'il faut voter. Et lorsque c'est nécessaire, nous procédons à un vote, ou bien lorsque ce n'est pas nécessaire, on constate qu'il y a un accord global. C'est comme ça que fonctionnent toutes les instances collégiales.
Tanguy Morlier ?
Le délai légal d'un mois pour que vous puissiez instruire la demande et mettre un avis est un délai très contraint. Aujourd'hui, il est de combien de temps en moyenne ?
Aujourd'hui, la moyenne, c'est plutôt autour de 3 mois. Nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, mais il est d'abord, il faut bien voir que c'est quand même pas un délai. La raison pour laquelle on a voulu enserrer l'ACADA dans un délai extrêmement court, c'est pour que la personne qui saisit l'ACADA puisse, sans attendre, si l'ACADA n'a pas rendu son avis, l'expiration de ce délai, saisir le juge administratif. Donc c'est une garantie. Maintenant, compte tenu souvent du nombre et de la complexité des affaires qui nous sont soumises, nous avons aujourd'hui tendance à rendre nos avis dans un délai qui est de l'ordre de 3 mois et qui n'est pas conforme à ce que prévoit la loi et que nous nous efforçons de contenir et de restreindre, mais c'est une opération délicate tant que la pression au nombre d'affaires reste au niveau où elle est aujourd'hui.
Alors, ça me permet de préciser le recours au tribunal administratif. Donc, dans la procédure, effectivement, si l'ACADA, par exemple, on reprend l'exemple de une personne qui sollicite un document administratif d'une mairie, la mairie refuse, la personne sollicite l'ACADA qui donne un avis qui donne raison à la personne qui demande le document, mais la mairie continue de refuser, à ce moment-là, la personne, le recours, parce que l'avis n'est pas contraignant, c'est un avis simplement, peut saisir le tribunal administratif qui, là, pourra juger. Et l'un des plus premières décisions, les plus importantes, en tout cas, suite aux lois numériques, c'est le code source des impôts, il y a 2-3 ans, je crois bien, où une personne demande à Bercy le code source des impôts, Bercy refuse, la personne saisit l'ACADA, l'ACADA confirme que le code source est bien un document administratif, Bercy ne s'y conforme pas. Et finalement, donc, la personne a saisi le tribunal administratif. Alors, entre-temps, Bercy ayant compris qu'ils allaient se faire bouler au tribunal administratif, ils ont décidé d'ouvrir le code source des impôts. Mais je rappellerai que donc, le tribunal administratif avait donné raison à la personne qui demandait ce code source, avait donné raison à la CADA, et en expliquant en plus très clairement que Bercy, globalement, dans son argumentaire juridique, se foutait de la gueule du monde, et que les juges... C'est un avis personnel, et qu'en tout cas, les juges administratifs ne s'étaient pas trompés. Donc, mais cette procédure, effectivement, peut aller jusqu'au tribunal administratif, qui est un petit peu plus long.
Si je puis me permettre un commentaire, je crois que ce que vous dites est très très important, dans la mesure où, même si la CADA, de par ses pouvoirs, n'émet que des avis, l'expérience montre que, pour une série de raisons qui tiennent, j'ai tendance à le penser, à la qualité de ses avis, dans un très très grand nombre de cas, et presque, je ne dis pas presque toujours, mais je pourrais dire presque toujours, l'avis de la CADA est conforté par le tribunal administratif. C'est ça qui fait l'autorité des avis de la CADA. Et donc, le fait que lorsque l'administration s'expose, plutôt ne suit pas un avis de la CADA, elle a le pouvoir de ne pas le faire. C'est comme ça que le législateur a voulu assurer l'équilibre du dispositif. Mais elle doit s'attendre avec beaucoup de probabilité, si elle insiste dans ce sens, à être censurée par le juge administratif.
Alors, je posais une dernière question, et je vais te laisser la parole, Tanguy. Je posais une dernière question avant une pause musicale. Et après la pause musicale, on abordera la qualité des avis de la CADA, et notamment certains avis. Ma question porte sur les évolutions récentes qui ont pu être introduites, notamment par la loi pour une République numérique en 2016 ou d'autres lois. Dans ce dispositif, est-ce qu'il y a eu des évolutions majeures, soit positives, vues positivement par les différents acteurs, soit vues négativement? Donc, je pose la question collégiale à nos trois invités. Donc, je vais commencer par Tanguy qui voulait prendre la parole. Ou tu veux parler d'autre chose, Tanguy?
Je voulais juste informer nos auditeurs qu'il n'y avait pas besoin d'attendre l'avis de la CADA. En fait, il suffit d'avoir saisi la CADA pour pouvoir aller voir le juge administratif. Et cet avis est non contraignant vis-à-vis du tribunal administratif, comme on l'a souligné. Alors effectivement, il y a eu des réformes, et la loi CADA a été notablement réformée lors de la législature précédente, puisqu'il y a deux lois qui l'ont directement impactée. C'est la loi de Clotilde Walter sur les données publiques et la loi numérique d'Axel Lemaire, qui ont, à quelques mois d'intervalle, fait progresser grandement le droit à la transparence, avec l'introduction du droit à l'open data. Ça, on le doit à la loi Lemaire, qui permet aux citoyens non seulement de pouvoir obtenir la communication d'un document, mais de pouvoir aussi obtenir la publication de ce document ou de ces données. Donc c'est un processus, et en plus qui est venu des citoyens, puisque entre autres Regards Citoyens a pas mal agi pour que les parlementaires intègrent ça dans le texte du gouvernement.
En gros, c'est le principe du demander qu'une seule fois, c'est-à-dire un document demander à l'administration. Non, c'est pas exactement ça.
Ce qu'on appelle l'open data, qui est en français l'ouverture des données, qui est en termes d'importance du sujet la plus grande novation, effectivement, de la loi Lemaire. Ça consiste en quoi? Ça consiste à une inversion du paradigme de l'accès. Dans le dispositif de la loi de 78 traditionnelle dont on a parlé jusque-là, il y a un droit d'accès qui implique que la personne demande le document. Dans le système de ce qu'on appelle l'open data, il y a une obligation pour l'administration concernée de spontanément mettre en ligne. Ce qui, évidemment, va entraîner une dispense, la demande devient sans objet. Simplement, vous imaginez que pour que cette obligation se réalise spontanément, il faut un changement de comportement assez important de la part de l'administration, qui n'est pas seulement lié à des problèmes pratiques, mais aussi à des problèmes culturels.
Alors d'ailleurs, je suis un peu coupable, parce qu'avec Tanguy Morli et Xavier Bern, on a consacré une émission à ce sujet. Donc j'invite les personnes intéressées, c'est je crois de mémoire l'émission d'octobre 2018 sur les données publiques ouvertes et notamment les collectivités. Donc Tanguy, je te laisse continuer sur ce que tu voulais dire, et ensuite je passerai la parole à Xavier Bern.
Alors, deuxième innovation de ces lois, et là il me semble que c'est la loi Walter qui l'a introduite, c'est que les documents numériques peuvent être demandés en format ouvert, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc certaines administrations donnaient des formats propriétaires qui, ne pouvant pas être ouverts par les citoyens, devenaient sans usage réel. Et la dernière innovation, pour les résumer...
La gratuité, surtout.
Oui, alors la gratuité, elle était déjà, elle est effectivement annoncée par la loi Valter, mais c'était déjà la règle. Elle est annoncée politiquement de manière plus forte à travers la loi Valter. La troisième innovation, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait que le président de la CADA puisse prendre des avis sans solliciter le collège, ce qui offre un droit supplémentaire en termes de fluidification éventuelle de la CADA.
On va en parler juste après la pause musicale. Xavier Bern, est-ce que tu veux intervenir sur cette partie-là ?
Non, je pense que c'est bon. Je pense que les deux intervenants précédents ont plutôt bien fait le tour sur les nouveautés de la loi numérique. Il y en a beaucoup d'autres, mais après, ça relève peut-être du détail. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, cette loi CADA, elle relevait plutôt sur le modèle du « je demande à l'administration, l'administration me donne », et avec la loi numérique, il y a de nouvelles obligations pour que les administrations mettent également sur Internet des documents administratifs pour que tout le monde en profite. Et au-delà de l'aspect bénéfice pour la société civile, c'est aussi important pour les administrations. Pourquoi ? Parce que juridiquement, un document qui est mis en ligne, il n'a plus à être communiqué ensuite à un citoyen qui viendrait le demander. Donc ça veut dire qu'après, l'administration n'a plus à répondre aux demandes individuelles. L'administration a donc aussi intérêt à ce que des documents administratifs soient mis en ligne.
Peut-être parmi les dernières réformes, il y a une réforme plus inquiétante qui, en théorie, ne doit pas impacter, si on regarde d'un point de vue simplement juridique, la loi CADA, mais qui est une régression en matière de transparence globale de la société. C'est le secret des affaires qui a été voté un petit peu plus récemment. Mais il se trouve que parfois la CADA, et peut-être que ça permettra de lancer le sujet, s'empare de ce sujet alors qu'a priori elle n'en est pas... Elle ne devrait pas être concernée, et que ça crée aussi beaucoup d'inquiétudes de la part des administrations ou de certains délégataires de services publics qui vont utiliser cet argument du secret des affaires pour opposer de l'opacité.
Alors, c'est l'un des sujets qui sera abordé après la pause musicale. Quand on parlera des avis, on parlera principalement de trois avis, on va dire entre guillemets, emblématiques. Donc nous allons faire une pause musicale, le morceau s'appelle La Petite Britney, le groupe s'appelle 6 février 1985, je ne sais pas pourquoi, et on se retrouve juste après.
Elles sont amusantes quand il faut dialoguer. À 10 ans, elles se lèvent, se barbouillent de rouge à lèvres, sans lâcher le mascara qui fait hurler papa. Mais elle veut être femme.
Être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
la pub la condamne à jouer comme les grands. Son innocence s'est troquée. Un garçon du quartier, il peut te casser les dents si tu parles son amante. Il a trafiqué son scooter qui fait hurler terreur. Papa qui voit partir sa petite fille de souvenir. Mais elle veut être femme.
Être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
la télé la condamne à fumer comme les grands. Avec sa poitrine gonflée, claque les talons sur les allées, remballée contre opacité. Elle porte pas d'intérêt aux autres, vu que c'était pas dans l'horoscope. L'amour a maintenant un prix, c'est Sergio Tacchini. Mais elle veut être femme.
Être femme, être femme.
Alors évidemment,
évidemment, évidemment,
les marques la condamnent à claquer son argent. Sur ta vie, une demoiselle, dont l'amour doit se parfumer en Chanel ou en gel. As-tu peur de ton odeur ? As-tu peur de ta figure ? Pour cacher les erreurs que la vie nous procure. Même en restant une femme,
une femme, une femme,
n'oublie pas évidemment,
n'oublie pas évidemment,
qu'il est bien plus prudent de ne pas faire comme les grands. Thank you.
Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Vous venez d'écouter La Petite Britney par le groupe 6 février 1985 et évidemment les références précises sont sur le site de l'April. Donc nous sommes toujours en compagnie de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, donc Xavier par téléphone, et au studio Marc Dandelot, président donc de la commission d'accès aux documents administratifs, Tanguy Morlier, membre du collectif Regard Citoyen. Donc nous étions un petit peu dans la théorie, on va continuer à en parler sur un point précis avant d'aborder certains avis de la CADA. On va parler de l'aspect secret. Donc, Marc Dandelot, notamment président de la CADA, souhaitait aborder ce sujet. Donc, je vous laisse la parole.
Oui, merci. Ce que je voulais dire dans les secrets, c'est vrai de toutes les législations dans le monde entier sur la communication des documents administratifs. Il y a des éléments, des données, des informations qui doivent rester secrètes. Il y en a deux grandes catégories pour comprendre. Il y a d'abord des secrets d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique. On ne peut pas dévoiler à l'occasion d'un document des informations qui mettraient en cause la sécurité publique. Et puis, il y a des secrets plus contingents à la situation de personnes, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Le secret dont peut se prévaloir une personne physique, c'est la vie privée. Et le secret dont peut se prévaloir une personne morale, c'est le secret des affaires. Et dans l'hypothèse où un tel secret lié à une personne est en cause, le document ne peut être communiqué qu'à cette personne précisément, sauf si la loi explicitement est venue prévoir une exception. Et dans le débat, et lorsque un document, ce qui est très souvent le cas, surtout un document d'une certaine importance, contient des éléments qui sont couverts par le secret, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que prévoit la loi, c'est que l'administration doit non pas décider tout de suite de ne pas communiquer, mais doit regarder si elle peut occulter. Et donc, à ce moment-là, elle ne délivrera qu'un document occulté. Et c'est un sujet souvent de débat, parce que d'abord, la portée de ce qui doit être occulté fait souvent, est souvent en débat entre les parties. Et deuxièmement, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le travail d'occultation peut représenter une charge de travail très importante lorsque le document est gros et n'a pas été rédigé et conçu dans la perspective où il pourrait être communiqué. Et nous trouvons de façon récurrente des réticences de l'administration anormale à communiquer ce genre de document, non pas du tout pour des principes qui sont le refus de la transparence, mais simplement par le travail que représente ce processus d'occultation qui représente des charges supplémentaires de travail pour une administration qui peut ne pas être, enthousiaste à l'idée de se mettre ça sur le dos en supplément de ce qu'elle a à faire normalement.
Tanguy Morlier, tu veux réagir ?
Oui, alors effectivement, il y a certains secrets qui sont légitimes. On pense naturellement à la vie privée. Le rôle de l'administration n'est pas de révéler la vie privée de ses concitoyens, même s'il est parfois légitime que l'administration en connaisse une partie. Je pense notamment aux revenus ou à ce genre de choses. En revanche, il faut bien avoir à l'esprit que ces secrets, au sens de l'administration, sont toujours limités dans le temps. Même le secret le plus secret, au sens administratif, il va être révélé par le travail historique des historiens, des archivistes publics, dont la charge est justement d'évaluer quand est-ce que ce secret deviendra public et qu'on pourra comprendre des décisions publiques qui ne sont peut-être pas immédiatement compréhensibles par le simple accès aux documents administratifs. Il se trouve que ces secrets légitimes sont régulièrement utilisés par des administrations opaques ou qui n'ont pas de culture de la transparence pour opposer un refus à des citoyens, parfois un petit peu énervés, parfois un peu trop challengeants, et que le repli classique de toute organisation, qu'elle soit publique ou pas, est de se dire « ce n'est pas vos problèmes, regardez ailleurs ». Et donc, il y a cet équilibre qu'il faut toujours trouver entre des secrets légitimes qui doivent être le plus minime possible puisqu'il s'agit de la cause publique, de la chose publique. Et donc, du coup, l'ensemble des citoyens doivent en connaître y compris en attendant un petit peu parfois. Et cette culture de la transparence qui n'est sans doute, en tout cas de cette culture de la transparence démocratique, qui n'est sans doute pas assez intimement connue par les institutions.
Alors, avant de passer la parole à Xavier Berne, qui je suis sûr réagira sur ce point-là, et avant d'aborder certains avis de la CADA en détail, il y a au moins une administration qui pratique le noir sur les documents de façon très intensive, c'est quand même le ministère des Armées, ex-ministère de la Défense, qui est capable de nous envoyer 100 pages de documents où à peu près 90% est noirci de façon totalement abusive. Des fois en oubliant le sommaire, et le sommaire révèle des fois des choses, donc en plus ils sont incompétents quand ils font ce genre d'opération, excuse-moi de le dire. Donc Xavier Berne, est-ce que tu veux réagir sur ce point précis? Et ensuite, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur l'un des avis, on va dire, emblématiques de ces derniers mois de la CADA, qui concerne justement notre ministère, entre guillemets, préféré, qui est le ministère des Armées, et qui concerne à la fois l'April et Next Impact. Xavier Berne.
Non, c'est bon, je pense que je veux bien qu'on continue plutôt sur d'autres avis pour avancer un petit peu sur les différents sujets qui seront évoqués, je pense, dans l'émission.
Alors à ce moment-là, est-ce que tu peux nous expliquer la démarche que tu as faite par rapport à un document que nous avions demandé au ministère des Armées, que nous avions publié sur notre site. Ensuite, toi, tu as sollicité le ministère des Armées sur un point précis. La CADA a donné un avis. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de texte, s'il te plaît?
Alors, en fait, il y a un contrat en fait, qui lie actuellement, et depuis de nombreuses années, le ministère de la Défense à l'entreprise Microsoft pour des produits de type Office. Du coup, l'April avait demandé la communication de certains documents contractuels donc, qui ont été communiqués par la suite à l'April, l'association de promotion du logiciel libre. Et il se trouve qu'en fait, théoriquement, le ministère des Armées ayant plus de 50 agents, en vertu de la fameuse loi numérique, ils auraient dû également le mettre en ligne.
Tous ces sur leur site.
Alors, c'est pas précisé. C'est précisé que ça aurait dû être publié en ligne, mais c'est quand même plus ou moins sous-entendu que c'est sur le site de l'administration en question. Donc, les documents n'avaient pas été mis en ligne. Et en plus, les documents qui vous avaient été communiqués à l'époque n'avaient pas été communiqués dans un format ouvert, comme le prévoit également la loi numérique, c'est-à-dire que c'était des simples documents qui avaient été scannés. Et un document scanné, c'est complètement inexploitable. On ne peut rien en faire derrière, il faut ressaisir tout ce qui est dans le document scanné et le mettre dans un fichier de traitement texte ou un tableur si c'est des chiffres, des statistiques.
Pour préciser, on avait reçu en fait du courrier papier que nous avions scanné, pour préciser.
D'accord, ah ben, je ne savais pas, du coup ça changeait des choses. Mais bon, du coup j'avais quand même fait une demande de publication en ligne, donc j'avais demandé au ministère des Armées qu'ils mettent directement en ligne ces fameux documents administratifs. Et le ministère des Armées ne m'a pas répondu, donc au bout d'un mois j'ai saisi la CADA qui, au bout de plusieurs mois, m'a répondu en me disant que mon avis n'avait pas, que ma demande était irrecevable, tout simplement parce que les documents que je demandais étaient mis en ligne sur le site de l'April, l'association de promotion du logiciel libre. Et j'ai trouvé ça vraiment très surprenant que la CADA accepte que, d'une certaine manière, l'administration se défausse de ses obligations sur un tiers. Et là, en l'occurrence, c'était donc votre association, l'April.
Alors, pour bien préciser, l'association n'a pas une délégation de service public. Hein. Nous sommes une association loi 1901 de droit privé. Donc, ça nous a aussi surpris. On peut dire qu'on emploie un mot un peu faible, hein, parce qu'on a trouvé ça parfaitement scandaleux. Alors, la réponse du ministère des Armées, on l'a trouvé à peu près logique, parce que le foutage de gueule au ministère des Armées, j'insiste, est à peu près permanent sur ce dossier-là. Par contre, ce qu'on s'attendait, effectivement, c'est que la CADA les corrige un petit peu et leur dise qu'ils s'étaient trompés. Donc, avant de laisser, évidemment, Marc Dandelot s'expliquer sur ce dossier précis, est-ce que Tanguy Morlier, tu veux ajouter quelque chose sur ce point, sur cet avis-là précis?
Il nous a aussi fortement surpris. Il me semble que l'article L312-1 dit clairement que les administrations rendent public les documents qui... ce document, par exemple, puisqu'il avait fait l'objet d'un avis, d'une demande CADA, et que la loi Lemaire prévoyait que les documents qui faisaient l'objet d'une demande CADA était ensuite publiée sur le site des administrations. Donc on a été effectivement surpris de cet avis qui nous a semblé être plus un copier-coller de la part du ministère de la Défense qu'un vrai avis mûrement réfléchi de la part de la CADA.
Alors avant de laisser la parole à Marc Dandelot, je précise que l'avis donc a été pris par Marc Dandelot en tant que président de la CADA. On parlait tout à l'heure de la procédure entre collège et décision prise par le président. Si je me souviens bien, ce genre d'avis, vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est soit pour des décisions simples, bon, nous, il nous paraissait à peu près simple que le ministère des Armées racontait n'importe quoi, soit pour des décisions qui faisaient suite à finalement une doctrine de la CADA régulière. Et on a regardé un peu la doctrine de la CADA, on n'a jamais trouvé d'avis qui confirmait qu'une structure n'ayant pas une délégation de service public avait la charge de mettre en ligne des documents qu'elle avait reçus via une administration et aussi de le maintenir, parce que je rappelle que la loi Le Maire oblige à maintenir ces documents, donc nous oblige quelque part à demander au ministère des Armées régulièrement les nouveaux documents pour mettre à jour notre site. Donc Marc Dandelot, sur ce dossier-là, en gros, pourquoi cette décision ?
Bien, alors je vais expliquer la décision et puis ensuite je vais commenter par rapport à ce que nous nous sommes dit à l'instant qui contribue peut-être à éclairer des éléments qui ne sont pas traités par la décision. Aussi curieux que cela puisse paraître, si j'ai pris cette ordonnance, c'est tout simplement parce que telle était la doctrine de la CADA en vertu de d'avis précédents que je n'ai donc pas inventé. Il faut que je m'explique un peu de la technique juridique.
Allez-y.
Parce que ce que prévoit la loi, c'est que lorsqu'un document a fait l'objet d'une diffusion publique, on ne peut pas en demander communication parce qu'en quelque sorte, l'accès public a été fait. Et la question s'est posée il y a déjà plusieurs années de savoir si la diffusion publique d'un document était exclusivement sa diffusion par l'administration ou si l'état de fait de diffusion publique pouvait résulter de la mise en ligne par une personne privée. Et il se trouve que dans plusieurs cas précédents, la CADA avait retenu cette conception purement factuelle de la diffusion publique, c'est-à-dire avait admis que lorsqu'un document a été révélé publiquement, il n'entre plus dans la procédure de droit d'accès, puisque le droit d'accès devient sans objet.
Pour être sûr de bien comprendre, vous estimez du coup que les nouveaux articles qui ont été introduits par la loi Le Maire ne vous concernent pas ?
Alors non, c'est là où il y a deux points. C'est là où il y a deux points sur lesquels je voudrais nuancer. D'abord, c'est que de toute façon, au vu de ce que nous avons déjà dit nous-mêmes depuis la loi Le Maire, c'est qu'il ne peut y avoir diffusion publique que si c'est diffusé dans le format qui est requis par la loi. Et là, par rapport à ce qu'a dit Xavier, effectivement, il peut y avoir un problème, mais ça, ce n'était pas dans le dossier tel que sur lequel j'ai eu à me prononcer.
Ça l'était indirectement, parce que vous, dans votre avis, excusez-moi, vous citez l'URL du site de l'April. Sur le site de l'April, les documents, c'est du PDF scanné, ce n'est pas un format ouvert. Donc vous aviez les informations. Et ça me fait penser à un point que j'avais souhaité aborder à la fin de l'émission, mais je le cite tout de suite pour qu'on en reparle tout à l'heure. Dans les procédures, la CADA discute avec l'administration, échange, mais à aucun moment la CADA n'échange avec la personne requérante pour dire alors, l'administration me répond ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors qu'au tribunal administratif, il y a cette procédure-là.
Alors,
c'est un manque de procédure.
C'est exact, mais c'est ce qui est prévu par la loi ça, et on peut le contester.
Pas.
C'est-à-dire qu'effectivement, pour des raisons qui tiennent, c'est pour des raisons qui tiennent à la rapidité de l'instruction. Il n'est pas prévu, ça c'est tout à fait exact, la CADA étant une autorité administrative et non pas une autorité juridictionnelle, il n'est pas prévu ce qui s'appelle une procédure contradictoire. C'est-à-dire que nous sollicitons pour notre information les informations de l'administration, mais nous n'avons pas de va-et-vient d'échanges de communication, comme on ferait un échange de communication de mémoire dans le cadre juridictionnel, avec la personne qui nous saisit. Ça, c'est le texte de procédure.
Même temps, l'usage a pu vous permettre par le passé, il me semble au moins une fois à travers un cas lié à la jurisprudence, de pouvoir accueillir un demandeur pour qu'il exprime son point de vue devant la commission. Il me semble que vous l'avez fait avec l'entreprise Doctrine.
Oui, nous l'avons fait. Absolument. Ça, que nous puissions le faire est une chose que nous nous sommes reconnus. Que nous soyons obligés de le faire ne résulte pas des textes. Et donc,
Nous sommes d'accord. Ça ne résulte pas des textes. Mon point était simplement de dire que c'était un manque dans les textes
actuels.
Alors
maintenant, si effectivement, ce que vous me dites, c'est que nous pouvions avoir, de par une recherche suffisamment, je dirais,
pertinente. Un clic. Dans votre avis, excusez-moi, mais dans votre avis, il y a le lien vers notre page. Un clic. Ou alors c'est que peut-être la définition
non, mais
format
si,
ouvert n'est
si
pas
maîtrisée. Si le format n'était pas bon, mais C'est un avis, il faudrait, que je regarde.
Excusez-moi, c'est un point mineur, cet aspect format, même si effectivement c'est dans la loi.
Non, mais c'est un point...
Le point essentiel, c'est que vous dites que dans la jurisprudence de la CADA, alors, vous avez trouvé des avis conformes.
Oui, mais... c'est un point qu'on peut discuter peut-être au vu de la nouvelle loi. C'est-à-dire que, étant donné qu'à partir du moment où l'administration est... Je pense que le fait que l'administration... qu'une diffusion publique puisse exister de par la publication d'un tiers ne suffit pas à, je dirais, accomplir les obligations de l'administration à mettre en open data. Ça, je crois que c'est exact. Et donc, peut-être qu'il faut que nous reconsidérions mais que nous complétions notre doctrine sur ce point. Je vous l'admets.
C'est-à-dire que si Xavier refait sa demande, peut-être qu'il n'aura pas le même avis.
Ah, écoutez, je ne peux pas en préjuger, mais en tout cas, je pense que si aujourd'hui nous sommes saisis d'une demande qui ne soit pas une demande de communication, mais une demande de mise en ligne, ce qui était le cas d'ailleurs, une demande de mise en ligne, je pense que je ne prendrai pas d'ordonnance et je soumettrai l'affaire au collège. Ça, c'est clair.
Vous vous rendez quand même compte qu'avec ce genre d'avis, vous envoyez un sacré signal à l'administration. Parce que du coup, d'une part, vous dites... vous n'avez pas à respecter les obligations de la loi numérique à partir du moment où une association s'en charge. Ça veut quand même dire aussi que l'association, du jour au lendemain, elle peut arrêter, par exemple, de mettre ce lien. Vous avez dit tout à l'heure que c'est à partir du moment où est-ce qu'il y avait eu une diffusion publique, mais vous parlez au passé, comme si, une fois que la diffusion publique a cessé, l'obligation de publier en ligne le document cessait aussi. Or, il ne me semble pas qu'il y ait pour moi, l'obligation dans le code des relations entre le public et l'administration, c'est bien de publier en ligne de manière indéterminée.
Ça, je suis d'accord.
Concrètement, il se passe quoi si demain l'April arrête de mettre le document sur son site internet ?
Ah ben, si le document, là, nous n'avons jamais eu un cas de ce genre, mais il faudra en tirer les conséquences.
Ah ben, le document vient de disparaître du site de l'April à l'instant. Je tape au clavier, malheureusement. Non, c'est une blague. Par contre, j'ai une question plus précise. Alors, peut-être que vous n'avez pas les références en tête. Vous dites que dans la doctrine, vous avez des cas...
On a eu des cas, maintenant...
Moi, je suis intéressé par avoir les avis précis, parce qu'on a regardé un peu la doctrine. J'ai des exemples en tête, où notamment, effectivement, c'est des structures tierces qui avaient mis en ligne des documents. Mais les exemples que j'ai en tête, notamment un exemple avec l'infogreffe, c'est des structures qui avaient une délégation de services publics. Moi, je suis preneur d'un avis de la CADA dans lequel la structure qui a mis en ligne le document est une structure type association de loi 1901 qui n'a pas délégation de service public. Je suis preneur. Alors, ce n'est pas immédiatement, évidemment, dans l'émission, mais après, parce que j'aimerais bien consulter cet avis, j'avoue ne pas l'avoir trouvé ni sur le site de la CADA, ni en consultant les rapports d'activité, parce que je sais qu'effectivement, dans un certain nombre de rapports d'activité, je crois que c'est celui de 2015, il y a un débat sur ce sujet, effectivement, de la diffusion. Est-ce que sur cet avis-là, est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que vous souhaitez poursuivre ou est-ce qu'on peut prendre un deuxième avis récent de la CADA ? Xavier Berne ?
Je pense qu'on peut passer un autre avis de la CADA, mais d'une certaine manière, je trouve que voilà, on prend quelques avis ici, mais pour moi, les problèmes autour des avis de la CADA illustrent quand même un problème de fond. Autour du fonctionnement de la CADA. J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec l'association Ouvre-Boîte qui travaille aussi également pour ouvrir des données. Et il me disait, on a souvent l'impression que la CADA n'a pas le temps d'instruire correctement les dossiers, faute de temps. Et effectivement, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue en lisant l'avis sur l'histoire des documents contractuels du ministère des Armées. Et ça se retrouve dans d'autres avis que tu vas vouloir sûrement évoquer.
Alors,
est-ce que c'est... Enfin, moi, j'ai... S'il existe une autorité indépendante, elle doit faire bien son travail avec les moyens qu'on lui donne. A priori, ces moyens ont légèrement augmenté, peut-être pas suffisamment au regard des gens qui la gèrent, mais on est quand même passé de 15 rapporteurs à 19 ou 20 en lisant. C'est des informations qui sont publiées sur le site de la CADA en regardant les rapports. Le nombre d'avis traités par rapporteur diminue d'année en année. On était autour de 350 avis par rapporteur en 2013. Aujourd'hui, on est quasiment à 250 par rapporteur. Et j'ai récupéré toutes les données. Là où on peut rendre hommage à l'ACADA, c'est quand même que l'ACADA s'applique à elle-même la transparence qu'elle est censée véhiculer aux autres administrations, et que on peut récupérer l'intégralité des avis en open data à travers un partenariat avec data.gouv.fr. Et donc ce travail-là de pouvoir ausculter le travail de l'ACADA avec une volonté de l'améliorer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se félicite tous que son président soit en train de discuter avec nous aujourd'hui. Il me semble qu'effectivement, il y a un problème aujourd'hui de qualité et qui n'est pas lié à un surplus d'activité, en tout cas numéraire. Peut-être que les avis sont plus complexes, mais force est de constater que des sollicitations, il y en avait 10 000 en 2014 et 2015, et il y en aura un petit peu moins en 2018 si on regarde les données qui sont publiées par data.gouv.fr.
Alors, je vais passer la parole à Marc Dandelot, mais avant, je vais préciser une chose. Enfin, je vais préciser deux choses. On va traiter deux avis, notamment l'un où le regard citoyen considère qu'il y a une erreur de droit. Et l'autre, c'est pour revenir sur le secret des affaires, le lien tout à l'heure dont parlait Tanguy Morlier, entre secret des affaires et loi CADA. Mais juste avant, je voudrais juste rappeler que dans la procédure, en fait, la CADA étant une administration, vous pouvez, dans le cadre de votre dossier, quand vous saisissez la CADA, demander à la CADA d'avoir les échanges avec l'administration. Et c'est toujours très intéressant parce qu'on voit effectivement, et la CADA, alors là, de ce côté-là, nous transmet effectivement les informations, donc ce qui nous permet d'avoir les échanges avec l'administration concernée. Donc c'est une bonne pratique, et je salue au passage Marc Rez de Next Impact qui nous a un jour donné ce petit truc. Effectivement, la CADA étant une administration, la loi s'applique à elle-même. Est-ce que vous voulez réagir tout de suite sur les propos de Tanguy Morlier avant qu'on repasse dans le détail des deux avis ?
Je voudrais juste très brièvement, bon, on peut toujours trouver des critiques. Certainement, nous ne sommes pas à l'abri de critiques et nous sommes, je le reconnais très volontiers. Ce que je voulais quand même dire, c'est qu'il y a dans la culture de l'ACADA, et moi personnellement j'y étais extrêmement attaché dans la façon dont nous avons continué à fonctionner au cours des dernières années, un souci qui a toujours été le nôtre, de motivation extrêmement solide et complète de nos avis. Ce qui, effectivement, peut rendre la tâche difficile, plus difficile et consommatrice de temps quand nous sommes l'objet, comme c'est de plus en plus souvent le cas, de demandes compliquées. Et que donc, c'est vrai qu'une des raisons qui nous ont conduit à accepter d'être un petit peu plus, je dirais, souple sur le délai d'instruction, c'est parce que nous mettons plus de temps à faire une réponse complète aux demandes qui nous sont faites. Et donc, c'est une question d'équilibre entre la nécessité d'être toujours aussi rapide que possible par rapport à ce qu'a demandé le législateur et la nécessité d'avoir des avis juridiquement construits. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, si nous ne sommes pas, il m'arrive moi-même de trouver qu'une décision du Conseil d'État qui remet en cause un avis de l'ACADA est pas justifiée ou injuste, mais pour autant on l'applique. Et parce que c'est le juge suprême de la juridiction administrative qui nous a dit le droit. Donc nous ne sommes pas nous-mêmes à l'abri de l'opinion qui peut être la vôtre, que notre opinion serait discutable.
Xavier Bern, je crois que tu voulais prendre comme un exemple une demande donc de non-publication de documents du syndicat intercommunal d'énergie et e-communication de l'Ain, si je me souviens bien. C'est un peu long.
Oui. Après, ce n'était pas dans le détail qui était intéressant. Ce qui m'avait choqué en fait, dans cet avis de la CADA, c'est que la personne en fait, demandait la publication d'un document administratif. Et la CADA, dans son avis, s'est, à mon avis, complètement trompée de base légale et en disant en fait à la personne « Non, votre demande n'est pas recevable parce qu'il manque un décret d'application. » Et or,
est-ce
la base
que tu peux
légale,
ce qu'est un décret
question,
d'application
certes, avait besoin d'un décret, mais sauf que la demande de publication, elle relevait d'un autre article de la loi CADA, et donc il n'y avait pas besoin de décret d'application, ça s'appliquait, et très logiquement, la personne aurait dû recevoir un avis favorable à sa demande de communication. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a quand même pas des problèmes un petit peu de moyens, je ne sais pas, de méthodes de fonctionnement en interne ? Est-ce que vous admettez qu'il puisse y avoir des erreurs, voilà, tout simplement ?
Marc Dandelot.
Écoutez, qu'il puisse, d'abord, dans cette affaire, je ne crois pas que vraiment ça soit très intéressant de reprendre l'argumentation juridique sur cet avis qui, partait de l'idée qu'on invoquait une loi qui n'était pas encore en vigueur. Je crois qu'effectivement, ce n'était pas un problème de décret d'application, mais que la loi n'était effectivement pas en vigueur. De toute façon, aujourd'hui, elle l'est. Donc, c'est vraiment une affaire ancienne qui n'a plus de portée aujourd'hui. Maintenant, si vous me dites, est-ce que nous nous trompons jamais, nous essayons de nous tromper le moins possible. Maintenant, tout ce que je peux dire, quel est le juge de la justesse des avis que nous rendons? C'est le juge administratif. Ce que je constate, c'est que aujourd'hui, pas plus qu'autrefois, la validation par le juge administratif des avis de la CADA n'est pas plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ou 20 ans. Donc je ne partage pas l'idée qu'aujourd'hui les avis de la CADA seraient plus fragiles en termes juridiques. Maintenant qu'on puisse trouver un avis dans lequel on a pris une solution discutable, je ne vois pas comment je peux dire que ce n'est pas possible. Nous sommes tous des êtres humains et même avec le maximum d'attention et de professionnalisme que nous pouvons porter à notre analyse, il peut se faire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, ça, je ne peux pas le nier.
Je ne cherchais pas à jeter la pierre en particulier sur tel ou tel avis, mais il s'avère qu'en tant que journaliste, je demande souvent, j'ai souvent besoin de saisir la CADA. Si je pouvais ne pas la saisir, ce serait très bien. Malheureusement, les administrations, la plupart du temps, ne répondent même pas aux demandes de communication de documents administratifs. Et derrière, on se retrouve avec des avis, des fois, complètement loufoques. Et le problème, c'est que des fois, si c'est un simple citoyen, déjà saisir la CADA, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément à prime abord quand on n'a jamais fait ça auparavant. Et alors, saisir le juge administratif derrière, je pense que c'est quelque chose qui est encore plus rédhibitoire. Et le manque de soins qui peut être apporté parfois dans certains avis, à mon avis, se fait à la défaveur des citoyens et donc du droit d'accès aux documents administratifs.
Je partage totalement l'avis de Xavier. Ce pourquoi, en l'occurrence pour Montélimar, c'est un proche de Regards Citoyens qui a fait la demande. Il était assez clair dans son esprit que la CADA s'était trompée, que l'article L311-1 ne faisait pas l'objet de. Était applicable sans faire l'objet d'aucun décret. Et pourtant, il n'est pas allé devant le tribunal administratif. Parce que pour un citoyen, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. En temps, pas en termes d'argent, puisqu'on n'a même pas besoin d'un avocat. Mais c'est une charge importante à mener pour un citoyen. Et il se trouve que pendant longtemps, la CADA était vue comme un médiateur dans lequel ses avis faisaient, permettaient de calmer les insistances des citoyens et de rendre raison à certaines administrations qui faisaient de l'opacité. Et donc ces avis, par la sagesse médiatrice de la CADA, étaient très peu remis en cause. Et sur le plan social, à travers les militants de la transparence, je pense par exemple à Raymond Avrier ou ce genre de militants qui utilisent cet outil depuis très longtemps, et par la voie judiciaire et à travers le juge administratif. Et donc, j'ai l'impression que vous profitez de cette aura positive pour la CADA et que je ne suis pas sûr que si tous les avis passaient devant le juge administratif, on ne verrait pas une remise en question régulière de ces avis. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'avais une vision totalement idéale de la CADA et qu'en regardant plus précisément, notamment grâce aux efforts de transparence que vous faites, on est tombé sur plus d'épisodes.
Je pense peut-être aussi qu'il y a une explication très simple, c'est qu'aujourd'hui, du fait de vos activités, nous sommes plus sous la scrutinie, sous l'œil critique, et que effectivement, c'est une façon pour nous de nous améliorer. Je le prends positivement.
C'est extrêmement.
Mais ce que je dois vous dire, c'est que nous, et ça, je peux vous le dire vraiment avec beaucoup de certitude de la façon dont nous concevons nos réponses. Et quant au collège, on parle de la rédaction de nos avis, surtout sur les sujets qui sont un peu difficiles à cerner, comme le secret des affaires. Nous essayons de développer des raisonnements qui soient suffisamment solides et suffisamment construits pour être compris par les administrations, et donc que les avis aient l'autorité qu'il faut pour être mis en œuvre.
Alors, avant de... Ça nous permet une transition sur le secret des affaires dont on va aborder juste après. Ce que dit Tanguy Morlier, c'est peut-être un sort de désenchantement par rapport à une institution dont on attend beaucoup. Et c'est vrai que dans les autorités administratives, il y en a quand même beaucoup. Il y en a certaines dont on n'attend rien, comme par exemple la DOPI, soyons clairs, qui a beaucoup plus de moyens que vous, financiers, dont l'utilité, l'inutilité, excusez-moi, n'est plus à démontrer. Par contre, c'est vrai que l'utilité de la CADA est importante. Et deuxième point, c'est peut-être aussi, et ça aussi c'est grâce à des structures comme Regards Citoyens, comme l'April et autres, la compétence juridique des personnes augmente, et donc ils sont plus en capacité de voir les erreurs juridiques, ou absolument, en tout cas de les contester, les avis juridiques de structures comme la CADA. Et en tout cas, Tanguy l'a dit tout à l'heure, on vous salue vraiment de venir effectivement vous expliquer sur ces avis-là, ce qui ne serait pas forcément le cas de tout le monde. Donc voilà, il y a une montée en compétence de ce côté-là. Et donc, effectivement, comme le dit tout à l'heure Tanguy, les personnes, c'est compliqué d'aller au tribunal administratif, ou des fois on n'a pas envie, mais même les structures, des fois on se dit... aller au tribunal administratif, c'est chiant, etc. Probablement, si vos avis étaient challengés plus souvent au tribunal administratif, peut-être qu'effectivement, il y aurait des corrections.
Je prends acte, mais je pense que je n'ai rien à dire à contester de tout ce que vous dites.
D'accord. Alors, on va passer à un dernier avis, ou en tout cas un sujet qui est important, parce qu'il y a des évolutions juridiques au niveau aussi européen, avec la directive sur le secret des affaires, l'implémentation dans le droit français... Et on sent bien que d'un côté, il y a une volonté, une dynamique de transparence, côté évidemment des personnes et de certaines structures comme la CADA. Mais de l'autre côté, il y a des volontés de limiter la transparence au maximum et en utilisant des nouveaux outils juridiques comme donc le secret des affaires. Alors Tanguy Morlier de Regards Citoyens, je crois que tu voulais prendre un exemple concret de décision récente ou en tout cas de sujet récent qui lie accès aux documents administratifs et secret des affaires.
Absolument, il y a deux. On a mené un petit appel pour essayer de collecter non pas les erreurs de la commission CADA, mais les problèmes liés à la transparence. Et si vous avez suivi notre fil Twitter, notre hashtag What the fuck CADA, WTF CADA.
What the fuck?
What the fuck, c'est mais qu'est-ce qui se passe donc avec la CADA, pour d'accord, être tout à fait poli.
Oui.
Mais c'est pas avec la CADA, c'est avec la loi CADA. Et si vous avez remarqué, dans les différents témoignages qui sont arrivés à travers ce hashtag, il y a des remises en question de certaines décisions du législateur, il y a certaines administrations qui se sont fait épingler parce que vous aviez remis un avis positif et qu'il n'a pas été suivi. Et effectivement, dans le lot, certains avis posaient problème. Et ce qui a motivé au sein de Regards Citoyens le lancement de cet appel à témoignage, c'est une histoire relatée par Le Monde, qui s'est penché sur les implants médicaux et qui a sollicité une administration chargée de collecter les autorisations liées à ces dispositifs médicaux et qui a simplement demandé la liste des entreprises qui avaient fait l'objet d'une autorisation et la liste des entreprises qui avaient vu leur dispositif médical refusé. L'administration a refusé, Le Monde a sollicité la CADA et après six mois d'attente, elle a reçu un avis de la CADA après la publication de son travail journalistique, lui indiquant que la demande n'était pas fondée puisque elle tombait sous le coup du secret des affaires. Suite à ces témoignages-là, on a également eu le témoignage de l'association Ouvre-Boîte qui a fait une demande d'accès au code emballeur. Donc, c'est lorsque vous allez dans un supermarché, vous avez un petit pictogramme dans lequel il y a un numéro qui permet de savoir quelle est l'entreprise qui a emballé le produit que vous avez acheté dans un supermarché. Et là, de manière encore plus surprenante, l'ACADA, alors que sa doctrine avait acté que c'était un document administratif et qu'on pouvait avoir la liste de tous les codes emballeurs, a décidé que cette liste d'entreprises était soumise au secret des affaires. Alors ça nous a extrêmement choqués, parce que du coup, on allait voir, on s'est dit... que bah, les règles de l'ACADA étaient de regarder l'application du droit. Et donc, on s'est demandé quelle était la définition du secret des affaires dans le droit français, puisqu'il a été adopté, malheureusement, en France ces derniers mois. Et le secret des affaires répond à trois critères. Le premier, c'est que le secret sollicité n'est généralement pas connu ou aisément accessible par les gens au sein d'une profession. Le deuxième, c'est qu'il revêt une valeur commerciale par son secret. Et le troisième, c'est qu'il existe une mesure de protection pour conserver le caractère secret de cette information. Or, il se trouve que pour les deux avis dont on a eu connaissance liés au secret des affaires, il me semble qu'aucun de ces critères qui correspond à la définition française du secret des affaires n'est valable, alors que c'est les trois conditions qui doivent être remplies toutes les trois pour pouvoir profiter de cette protection du secret des affaires. Donc on a l'impression que là, pour ces deux décisions-là, l'ACADA n'a pas pris une décision à droit, mais a plutôt pris une décision politique, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'au sein de la commission, des gens sont plutôt sensibles au secret des affaires et qu'ils ont envie de véhiculer une vision qui ne correspond pas au droit du secret des affaires et qui profite de certains avis pour passer ce message politique.
Marc Dandelot ?
Je ne pense pas du tout qu'il y ait de la part de l'ACADA la recherche de faire passer un message politique. S'agissant du secret des affaires tel qu'il est désormais appelé, l'ancien secret commercial et industriel, il a été précisé dans le CRPA, dans la loi CADA, que les critères du secret des affaires étaient les mêmes que dans l'ancien acception où on l'appelait le secret commercial et industriel. Donc là-dessus, je ne peux pas être d'accord avec vous. En revanche, là, donc je crois que de la part de l'ACADA, il y a dans la construction de sa doctrine une continuité par rapport à ce qu'il a construit jusque-là. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un secret, nous l'avons dit à plusieurs reprises dans nos rapports précédents, qui fait preuve dans lequel la subjectivité intervient. Et que s'agissant du deuxième exemple que vous avez cité, qui est... Le code emballeur, c'est vrai que nous avons, dans cet avis récent, changé sur un point la doctrine qui avait été exprimée par l'ACADA précédemment. Ça a été une délibération très explicite et longue de l'ACADA. Elle peut être contestée parce que, je dirais, rien n'est à l'abri de contestation. Mais ça a été le délibéré de l'ACADA sur la base de considérations objectives qu'elle a estimé devoir prendre. Sur l'affaire précédente, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire l'affaire des dispositifs médicaux. Je pense qu'il y a dans cette affaire une question sur laquelle il faudra que l'ACADA, et je ne sais pas si elle peut le faire seule, sans changement législatif dans l'avenir, et qui est le suivant. C'est que je ne cherche pas à justifier, mais je cherche à expliquer ce qui a été le raisonnement de l'ACADA quand on lui a demandé la liste des entreprises qui avaient fait l'objet d'un agrément de leurs dispositifs médicaux ou qui se l'étaient vu refuser. Il se trouve que l'ACADA a appliqué sa doctrine traditionnelle, qui a été affirmée de nombreuses fois, selon laquelle la publication par une entreprise de la liste de ses clients relève du secret des affaires. Or, de par le dispositif qui est mis en place au plan européen pour la certification de ces dispositifs médicaux, c'était un dispositif qui relevait d'un dispositif de marché. Simplement, là où je reconnais qu'il peut y avoir, qu'on peut interpeller la réflexion sur ce sujet, c'est que dans cette révélation de la liste des dispositifs médicaux, il y avait aussi un enjeu de santé publique. Et nous aurions été en face d'une information environnementale. La loi a prévu, s'agissant de l'information environnementale, que il faut faire une appréciation de la proportionnalité entre le secret commercial à protéger et l'intérêt environnemental de la divulgation. C'est-à-dire qu'on peut faire une exception au secret et que simplement cet raisonnement de proportionnalité, il n'est pas prévu par la loi au titre de la santé publique. Et donc, est-ce qu'on pourrait se poser la question de savoir si il ne serait pas opportun d'ouvrir ce type de raisonnement à ce type d'enjeu public, mais est-ce que c'est la CADA peut le faire toute seule ou a besoin d'une ouverture législative? Je rappelle que si on se réfère à un certain nombre de conventions européennes ou de textes européens sur la communication des documents administratifs, il est prévu dans cette hypothèse-là qu'on puisse faire un raisonnement de proportionnalité.
Alors, je vais te redonner la parole, Tanguy, mais il ne nous reste même pas 4 minutes. Je vais vous laisser la parole une minute chacun, et vraiment une minute. Pour cette émission, je pense qu'on consacrera une deuxième émission et peut-être qu'on invitera un législateur, voire le ministre. Mais je vous laisse vraiment à chacun une minute et je vais commencer par Xavier Berne. Pour éviter de couper, parce qu'après, là, à 17h, c'est Aligre FM qui prend la suite. Donc, Xavier Berne, en 30 secondes ou une minute.
Moi, c'était plutôt des questions, et ça va peut-être pas vous arranger, mais j'aurais aimé en fait demander à Marc Mandelot s'il estimait avoir les moyens suffisants d'assurer sa mission aujourd'hui, quand on voit les délais qui sont ceux de la CADA pour traiter les dossiers, quand on voit les petits problèmes qu'il y a autour des quelques avis dont on a parlé, par exemple, parce que je pense qu'on a parlé, c'était juste un petit peu l'arbre qui cachait la forêt, au vu de tout ce qui remontait, notamment suite à l'initiative la semaine dernière de Regards Citoyens. Je voulais aussi vous demander quel regard vous aviez sur l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la CADA. Par exemple, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, devait normalement intervenir pour votre 40e anniversaire. Finalement, il n'est pas venu. Est-ce que cette absence n'est pas, d'une certaine manière, représentative du manque de considération de la part du gouvernement vis-à-vis de la CADA?
Alors, merci Xavier pour cette question qui, en moins de 10 secondes, va être compliquée à répondre. Mais Marc Dandelot, très rapidement.
Écoutez, je suis relativement optimiste aujourd'hui dans la mesure où nous avons un certain nombre de projets, même si ce n'est pas considérable, de consolidation de nos moyens. Donc je pense que nous allons pouvoir, dans le courant de l'année qui vient, avoir des améliorations et faire face à nos... Maintenant, dire que c'est idéal, je ne le dirai pas, mais je pense que nous pouvons faire face.
Alors, vous entendez répondu sur la question relative à l'attitude du gouvernement vis-à-vis de la CADA.
Oh là, je ne veux pas commenter sur l'attitude du gouvernement. Nous avons eu une remarquable allocution de fin de séance de la part du vice-président du Conseil d'État, et je pense que le Conseil d'État soutienne la CADA, c'est très très important pour notre autorité.
Alors Xavier, merci parce qu'on va bientôt être coupé sur la bande FM. En tout cas, invitation est lancée donc au gouvernement pour une seconde émission. Je laisse 10 secondes à Tanguy si tu souhaites intervenir ou pas.
Non, mais remercier Xavier évidemment d'avoir participé à cette émission et surtout au président de la CADA de nous permettre de dialoguer malgré nos ponctuels désaccords.
Et nous critiquer pour nous améliorer.
Absolument.
Eh bien, je vous remercie évidemment tous les invités, donc Xavier Berne de Next Impact, Tanguy Morlier de Regards Citoyens et Marc Dandelot de la CADA. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un sujet qui concernera les distributions libres. Ma collègue qui devait faire une chronique sur la sensibilisation, la fera la semaine prochaine en ouverture de l'émission. Donc je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.